Nous avons vu dans les dernières études, dans l'Épître aux Hébreux, que le culte qui était célébré dans l'Ancien Testament était une image. Il était bien réel, le culte dans l'Ancien Testament, sous l'Ancienne Alliance, mais toute la manière, la forme qu'il avait, servait d'image pour la Nouvelle Alliance, le nouveau culte dans l'Alliance. Il dit que c'était une image, c'est comme une ombre des réalités qui sont célestes et que nous célébrons dans la Nouvelle Alliance, enseignée par le Nouveau Testament. Cette Nouvelle Alliance que nous avons aujourd'hui, elle est meilleure. Elle est parfaite. On ne peut pas lui reprocher quoi que ce soit. Elle est éternelle, en plus. Et elle est basée sur de meilleures promesses, nous dit l'auteur d'Hébreux. Parce que ceux qui sont dans cette alliance-là, Dieu touche leur cœur personnellement pour qu'ils puissent le servir d'un cœur sincère et désirer accomplir sa volonté. Donc, Dieu grave sur leur cœur ses commandements. Une autre promesse qu'il fait, c'est que chacun qui est dans cette alliance a le grand privilège, l'opportunité d'être en relation avec Dieu, d'avoir accès au trône de grâce, comme nous venons de le chanter. Nous pouvons nous présenter à Dieu dans le lieu saint. Et un troisième bénéfice, une grande promesse, c'est que nous pouvons voir notre conscience libérée, soulagée des péchés que nous avons commis, sachant qu'ils sont pardonnés. Donc, être en communion avec Dieu est présenté comme un fait réel. Mais c'est quelque chose qu'on ne voit pas, ça demeure invisible. Et on peut être tenté de penser que c'est un rêve, que c'est une utopie. Est-ce que c'est plus qu'un rêve? Est-ce que c'est possible d'être réellement en communion avec Dieu, d'être réellement dans la présence de Dieu, tandis que nous sommes encore vivants sur cette terre? Est-ce que servir Dieu réellement, c'est possible? Certains prétendent que tous ceux qui se dévouent à des bonnes actions dans l'Église ou qui font de bonnes œuvres, quand en réalité, ils servent leur propre cœur. C'est soit pour soulager leur conscience ou pour en tirer un bénéfice, qu'ils en soient conscients ou non. Certains pensent que c'est impossible de réellement servir Dieu pour lui. On le fait au fond pour nous-mêmes. Est-ce que c'est vrai qu'on peut servir Dieu réellement? Est-ce que c'est possible? Est-ce que vous vous êtes déjà senti un peu hypocrite dans votre service ou dans votre activité à l'Église? Avez-vous déjà senti que vous manquiez un peu de sincérité? Comment on fait pour servir Dieu d'un cœur sincère et servir Dieu réellement pour lui? Mais le chapitre 9 élabore justement sur cette question, sur ce point capital. Et je vous demande de tourner avec moi dans Hébreux 9. Nous allons étudier les 14 premiers versets. Hébreux chapitre 9, à partir du verset 1. Hébreux 9, 1. Dans le Nouveau Testament, la première alliance avait, elle aussi, ses ordonnances relatives au culte et son sanctuaire terrestre. En effet, un tabernacle avait été installé, et dans la première partie, appelée le lieu saint, se trouvait le chandelier, la table et les pains de proposition. Puis, derrière le second voile, se trouvait la partie appelée le saint des saints, ou le lieu très saint. Et elle contenait un brûle-parfum en or et l'arche de l'Alliance, entièrement recouverte d'or, dans laquelle il y avait une urne d'or contenant la manne, ainsi que le bâton d'Aaron qui avait fleuri, et les tables de l'Alliance. Au-dessus de l'arche se tenaient les chérubins de gloire, couvrant de leur ombre le propitiatoire. Mais il n'y a pas lieu d'en parler davantage, ou maintenant en détail. Tout cela ainsi disposé, les sacrificateurs entrent en tout temps dans la première partie du tabernacle lorsqu'ils accomplissent les cérémonies du culte. Mais dans la seconde partie, seul le souverain sacrificateur pénètre une fois par an, non sans y présenter du sang pour lui-même et pour les fautes du peuple. Le Saint-Esprit montrait par là que l'accès du Saint des Saints n'était pas encore ouvert, tant que le premier tabernacle subsistait. C'est une figure pour le temps présent. Elle signifie que les dons et sacrifices présentés ne peuvent mener à la perfection sous le rapport de la conscience, celui qui rend ce culte. Ce sont là des ordonnances charnelles, relatives seulement à des aliments, des boissons, diverses ablutions, et imposées jusqu'à un temps de réforme. Mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait, qui n'est pas construit de la main de l'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Il est entré une fois pour toutes dans le sanctuaire, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang. C'est ainsi qu'il nous a obtenu une rédemption éternelle. Car si le sang des boucs et des taureaux et la cendre d'une génisse qu'on répand sur ceux qui sont souillés les sanctifie de manière à purifier la chair, combien plus le sang de Christ, qui par l'Esprit éternel s'est offert lui-même sans tache à Dieu, purifiera-t-il notre conscience des œuvres mortes pour que nous servions le Dieu vivant? Amen. Si vous avez déjà lu, après la Genèse, l'histoire se poursuit dans Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome. On voit que les Israélites avaient un culte qui célébrait qui était très détaillé. C'est impressionnant même. Le récit de la création du monde se tient en deux chapitres. Mais la description du culte de l'Ancien Testament, là, c'est sur des dizaines et des dizaines de chapitres. Et plusieurs chapitres sont consacrés même seulement à la description du tabernacle, dans les détails de la construction, comment il devait être confectionné. Et on voit que tous ces détails pour le culte qui était célébré par les Juifs, ce n'est pas inventé par les hommes. C'est Dieu qui l'a donné. On voit au verset 1 qu'on vient de lire ici, chapitre 9. La première alliance avait, elle aussi, ses ordonnances relatives au culte et son sanctuaire terrestre. Tout ce que pratiquaient les Israélites sous l'ancienne alliance était ordonné par Dieu. Malheureusement, avec le temps, ils en ont ajouté. Mais la description qui en est faite dans la Bible, c'est une description des ordonnances de Dieu. Contrairement à toutes les religions du monde où les hommes ont inventé leurs propres règles en servant un Dieu qui n'est pas le Dieu vivant. La nation d'Israël, sûrement que vous le savez, elle est née d'Abraham et de son fils qui avait été promis par l'Éternel, Isaac, et son petit-fils, Jacob. Et ses 12 arrière-petits-fils, les 12 fils de Jacob, qui sont les pères des 12 tribus d'Israël. Mais Jacob, qui a été renommé par Dieu Israël, et ses 12 fils, et toute la maisonnée, ils étaient 70 personnes, sont déménagés en Égypte suite à la famine et à la grande délivrance que Dieu a pourvue par la main de l'un des fils de Jacob, Joseph. Et ils sont restés en Égypte pendant environ 400 ans. Ils sont devenus une très grande nation et Dieu les a protégés, les a bénis. Ils sont devenus tellement grands et puissants qu'ils faisaient peur même au peuple égyptien parce qu'ils se trouvaient sur leur territoire. Au point où le peuple égyptien les a persécutés, on a fait d'eux leurs esclaves, il les a maltraités. Mais tout cela faisait partie du plan de Dieu. Et le peuple d'Israël a crié à Dieu pour obtenir son secours et Dieu a répondu. Il a envoyé Moïse, son serviteur, son prophète, pour sortir d'une main puissante le peuple d'Égypte. Et Israël a vu, et même toutes les nations ont vu, que Dieu est intervenu directement par 10 plaies, 10 grands miracles contre l'Égypte pour faire sortir son peuple avec puissance. Il a fait traverser la mer Rouge. Il les a délivrés même de l'attaque de l'armée égyptienne. Donc Dieu a fait d'Israël son peuple. Et ça n'a pas pris beaucoup de temps que Dieu a conduit son peuple au pied du mont Sinaï pour lui ordonner comment il voulait qu'il le serve. C'était la signature de la première alliance, qu'on appelle l'ancienne alliance. Cette alliance-là, elle était bonne. Elle était utile. Il n'y a rien que Dieu a donné qui est mauvais ou inutile. C'était bon pour le temps, à l'époque où il l'a donné, et c'était bon dans l'histoire de la rédemption de l'humanité. Mais c'était temporaire et limité, cette alliance. Cette alliance-là, elle concernait des choses terrestres, tangibles, matérielles, visibles. Même les actes de purification, c'était l'extérieur qui était purifié. C'était symbolique, en réalité. Et même le sanctuaire, l'endroit où Dieu a désigné pour venir habiter, on voyait que c'était temporaire, c'était terrestre. D'ailleurs, la première forme que le sanctuaire a pris, c'était le tabernacle. Par la suite, c'est devenu le temple. Mais la première forme, même dans sa construction, on voit que c'est temporaire, c'est éphémère. C'est une tente qui pouvait être démontée et remontée à chaque déplacement du peuple. même dans la manière que Dieu a voulu que sa maison soit construite, il envoyait le message que c'était temporaire. C'était éphémère. Et les versets 2 à 10, ici, présentent trois choses qui concernent l'ancienne alliance ou l'ancien culte. Premièrement, il décrit le sanctuaire, comment il était construit, quelles sont les caractéristiques de ce sanctuaire. Il décrit aussi qui étaient les personnes qui servaient dans ce culte, donc qui étaient les sacrificateurs. Et troisièmement, il nous indique c'est quoi la signification, pourquoi Dieu a voulu que ce soit comme cela. Donc si on regarde les versets 2 à 5, relisons-les ensemble. En effet, un tabernacle avait été installé dans la première partie appelée le lieu saint. Se trouvait le chandelier, la table et les pains de proposition. Puis derrière le second voile se trouvait la partie appelée le Saint des Saints. Elle contenait un brûle-parfum en or et l'arche de l'Alliance entièrement recouverte d'or, dans laquelle il y avait une urne d'or contenant la manne ainsi que le bâton d'Aaron qui avait fleuri et les tables de l'Alliance. Et au-dessus de l'arche se trouvaient les chérubins de gloire couvrant de leur ombre le propitiatoire. Il n'y a pas lieu d'en parler maintenant en détail. Pourtant, la Bible donne beaucoup de détails quant au tabernacle, puis au temple aussi, mais l'auteur d'Hébreux ici mentionne seulement le tabernacle comme étant le premier sanctuaire. C'est parce qu'il voulait prouver un point ici. Il voulait justement prouver l'aspect que c'était temporaire. Mais la Bible prend la peine quand même de s'attarder aux détails. Pourquoi cela? Mais selon l'auteur d'Hébreux ici, et selon plusieurs auteurs du Nouveau Testament aussi, c'était pour montrer une image de Jésus-Christ lui-même. Même au verset 9, il dit que c'était une figure pour le temps présent. Le mot original qu'on pourrait traduire littéralement, c'est une parabole. La manière dont le tabernacle a été construit, designé, comme on dit dans le langage des ingénieurs, c'était une image, c'était une parabole servant à annoncer Jésus-Christ, le Fils de Dieu, qui allait venir un jour. Le tabernacle lui-même représente Jésus. Il était constitué premièrement d'un parvis. Sur le dessus de votre bulletin, il y a une petite image, vous voyez en bas. Le parvis, c'est une genre de palissade qui contournait le terrain central où était disposé le tabernacle. On pourrait dire que c'est comme une cour où le service du culte avait lieu. Ça devait se passer là. C'était environ 45 mètres par 23 mètres de large. Pas très grand, mais c'était pour concentrer l'activité là, et le peuple pouvait entourer et voir cela. Il n'y avait qu'une seule porte pour entrer dans ce parvis, à l'est. Donc, une seule manière, un seul passage pour se rendre au tabernacle, au lieu saint. Ça, on voit un symbole très fort. Lorsqu'on considère qui est Jésus et comment il s'est présenté, Jésus a dit de lui-même, « Je suis le chemin. Je suis la porte. Il est le seul chemin. » Donc, le fait qu'il y avait une seule porte était déjà une indication, une illustration du Fils de Dieu qui allait venir. Il y avait un autel dans ce parvis, donc à l'extérieur du tabernacle, il y avait un autel à la vue de tout le peuple pour y offrir les sacrifices. Il était en bois d'acacia. C'est un bois très léger, mais en même temps très dur, très résistant et qui ne pourrit pas, qui peut offrir des années et des années sans pourrir. Donc, très résistant, et il était recouvert de bronze ou d'airain. Ça, c'est un alliage de métaux à majorité de cuivre, mais qui est résistant et qui est de grande qualité. Il était carré. On s'imagine un autel de différentes formes parfois, mais il était vraiment carré, environ 2 mètres et demi par 2 mètres et demi, et à une hauteur où on pouvait se tenir à côté pour servir, pour offrir les sacrifices, donc environ un peu plus d'un mètre de haut. Il y avait une corne à chaque coin de l'autel où on pouvait s'en servir pour attacher l'animal qui était sur l'autel pour le sacrifier. Il y avait une grille aussi qui était disposée parce qu'on pouvait allumer un feu en dessous lorsqu'il s'agissait d'un holocauste pour faire brûler l'animal. C'est encore une image de Jésus qui a lui-même été attaché, immolé sur une croix, sacrifié et son sang a coulé. Même la forme du sacrifice qui était demandée dans l'Ancien Testament annonçait qu'un jour, Jésus allait mourir, sacrifié d'une manière semblable. Il y avait aussi une cuve en bronze, un bassin à l'extérieur qui servait au rituel de purification, où les sacrificateurs pouvaient se laver les mains, parfois les pieds, et même pour entrer dans le service comme souverain sacrificateur de père en fils, ils étaient lavés entièrement, immergés. C'était comme le début du symbole du baptême. C'était encore là une image de Jésus qui nous purifie. C'était encore une image du ministère qu'un jour Jésus viendrait nous purifier, nous laver, enlever les impuretés. Et au centre du parvis, au centre de la cour, c'est là que se trouvait le tabernacle, la tente de la rencontre. Elle n'était pas très grande. C'est environ 4,5 mètres de large. C'est moins large que l'estrade ici. Et 13,5 mètres de long. Donc un peu plus long que la profondeur de la salle. Il n'y avait pas un énorme trafic à l'intérieur de cela. C'était réservé aux sacrificateurs qui y entraient. Et les deux tiers, la première partie, c'était le lieu saint, un lieu où le seul service qui se faisait dans ce lieu-là, le seul travail qui se faisait, c'était vraiment pour le service de Dieu, le culte. Et en cela, il était sanctifié, il était mis à part pour le culte de Dieu. Et le dernier tiers de la superficie était caché par un voile hermétique. Et c'était le lieu très saint, le saint des saints, où personne n'y entrait, sinon il mourait instantanément. Il n'y a pas d'exemples qui nous sont rapportés dans l'Ancien Testament où on voit des gens qui sont pénétrés et qui sont morts, mais on peut croire qu'ils seraient vraiment morts. Parce qu'on a d'autres exemples, comme des gens plus tard qui ont touché à l'Arche de l'Alliance et qui sont morts. Ou les fils d'Aaron qui ont emporté un feu étranger, qui n'ont pas respecté exactement le protocole que Dieu avait prescrit et qui sont morts. C'est sûr que si quelqu'un était entré là sans avoir la permission, il serait mort. Et c'était une image. Le tabernacle, c'était une image de Jésus, en fait, qui nous fait entrer dans ce lieu saint-là, dans la présence de Dieu. Comme on l'a chanté ce matin, « Allons auprès de Dieu ». Dans l'Ancien Testament, c'était encore un espoir, un rêve qu'un jour Dieu permettrait cela. Dans la Nouvelle Alliance, c'est concret. Maintenant, on peut, par Jésus, entrer dans le lieu saint. Parce qu'il fait de nous des sacrificateurs, des gens autorisés à y pénétrer. Nous n'avons pas à craindre de mourir foudroyés, d'avoir outrepassé nos droits. Nous sommes revêtus de l'autorité pour y avoir accès. Dans le lieu saint, il y avait trois objets. Ici, l'auteur d'Hébreux en cite seulement deux. Ben, il dit de toute façon que ce n'était pas important de s'attarder sur ces détails-là. Ce n'était pas le point principal de son argumentation. Le premier objet qui s'y trouvait, c'était un chandelier, un peu comme il est représenté sur l'image, à 7 branches, entièrement fait d'or massif, et qui devait brûler continuellement. C'est encore là une image de Jésus, vous ne trouvez pas? Jésus qui est dans le lieu saint et qui nous éclaire, qui nous guide. Il est la lumière du monde. Il nous révèle la manière dont il veut que nous servions Dieu. Et sans lui, on ne pourrait pas servir Dieu, on serait comme aveugle. Il est le chandelier qui nous éclaire. Le deuxième objet dans le lieu saint, c'était une table. Une table en bois d'acacia encore, recouverte entièrement d'or. Et on mettait dessus 12 pains de proposition. Des pains qui étaient là pour Dieu. Et personne n'y touchait pendant une semaine. Ils étaient posés le jour du sabbat. Et à la fin de la semaine, les sacrificateurs les enlevaient pour en mettre de nouveau. Et ils pouvaient les manger. Seulement les sacrificateurs étaient autorisés de manger des pains de proposition. C'est encore là une image de Jésus. C'est le deuxième rôle de Jésus qu'il fait présentement alors qu'il est aux cieux. Il nous éclaire. En plus, il nous nourrit par sa parole. Il nous nourrit, il nous fait grandir. L'homme ne vivra pas de pain seulement. Il vivra de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et c'est Jésus. Jésus est le pain de vie. Et le troisième objet qui était dans le lieu saint, qui représente la troisième tâche que Jésus accomplit pour nous, c'était l'autel des parfums. Un autel environ un demi-mètre par un demi-mètre, donc carré, assez haut. On y brûlait constamment un parfum qui montait. C'était comme un parfum qui montait jusqu'aux narines de Dieu, un parfum de bonne odeur. Comme pour demander la faveur de Dieu. Que sa colère de Dieu ne nous tombe pas dessus. Comme les Gaulois qui a le ciel ne nous tombe pas sur la tête. Mais c'était pour intercéder auprès de Dieu, pour avoir sa faveur. Et qu'est-ce qu'il fait Jésus aujourd'hui? C'est ce qu'il fait. Il intercède pour nous, il est devant Dieu comme un parfum de bonne odeur pour Dieu son Père. C'est encore là une image qu'un jour, il y aurait quelque chose de spirituel qui viendrait remplacer cet autel des parfums. Et Jésus brûle continuellement une bonne odeur pour Dieu son Père, pour nous. Ça, c'était devant le voile. Derrière le voile, c'était un lieu sacré, très saint. Il est appelé le Saint des Saints. C'est comme si c'est plus que 100% de sainteté. C'est une infinie de sainteté. Derrière le voile. Et c'est seulement le souverain sacrificateur qui pouvait y entrer. Aucun autre sacrificateur n'était autorisé à y pénétrer. On voit que Moïse a été autorisé à y aller. Mais Moïse, c'est vraiment une exception. Dieu lui parlait face à face. Et c'est dans par le propitiatoire qui est au-dessus de l'arche de l'Alliance que Dieu a transmis à Moïse sa volonté. Et c'est à cause de cela que Moïse a pu écrire même le Pentateuque et tout le récit des cinq premiers livres de la Bible. Et Dieu lui a transmis sa volonté directement. Mais à part Moïse, là, c'est seulement le souverain sacrificateur. Et le premier d'entre eux, ça a été Aaron. Seulement lui pouvait y entrer. Et dans ce lieu très saint, normalement, il n'y avait qu'un seul objet, c'est l'Arche de l'Alliance. On voit une image dessus. Un coffre, on l'appelle une arche, mais en français, d'aujourd'hui, on dirait un coffre. Si on traduisait littéralement, là, c'est un coffre fermé complètement, sauf un couvercle qui est posé dessus, avec deux barres pour le transporter, pour éviter de lui toucher. En bois aussi d'acacia et entièrement recouvert d'or. C'était le seul objet qu'il y avait dans le lieu très saint, sauf au jour des expiations, qui arrivait une seule fois par année, où là, le souverain sacrificateur entrait avec un brûle-parfum. C'était le deuxième élément qui s'ajoutait de manière exceptionnelle dans le lieu très saint. Dans l'arche se trouvait un vase d'or, une urne, qui contenait la manne. C'est que Dieu a nourri le peuple d'Israël alors qu'il était dans le désert. Normalement, ils auraient dû mourir de faim dans un lieu désertique, sans possibilité de faire de l'agriculture, mais Dieu les a nourris. Et Dieu voulait qu'ils s'en souviennent. Et il a ordonné qu'on garde en souvenir un pot de manne dans l'arche de l'Alliance. Parce que si Dieu les a nourris, c'est parce qu'il avait fait alliance avec eux. Elle contenait aussi le bâton d'Aaron, qui est le premier souverain sacrificateur, un symbolisme fort qui a été posé. Et elle contenait les tables de la loi, les tables de pierre avec les 10 commandements. Il y a eu d'autres lois qui ont été données, là. La loi est très riche, mais les 10 commandements de base que Dieu a donnés ont été posés là, en mémorial. Et sur le couvercle se trouvait un endroit qui n'est pas tangible, mais c'était le propitiatoire. Un espace où Dieu venait et sa présence était là, sa gloire, et c'est par là qu'il parlait. Et c'est sûr que quiconque se serait trouvé à proximité du propitiatoire lorsque Dieu descendait serait mort instantanément. Sauf si, comme on va le voir, il avait pris la peine de faire tout le cérémonial de purification, ce qui était demandé au souverain sacrificateur. Et le propitiatoire était recouvert par deux anges, deux chérubins qui couvraient de son ombre, de leur ombre, le couvercle. Et Dieu avait dit dans Exode 25-22, « Je te rencontrerai du haut du propitiatoire, entre les deux chérubins, placés sur l'arche du témoignage. Je te parlerai afin de te donner tous mes ordres pour les Israélites. » Encore là, c'est une image de Jésus. C'est-à-dire que nous, on ne pourrait pas s'approcher de Dieu sans périr, sans mourir. Ça prenait un intermédiaire, et c'est Jésus qui est comme le lieu très saint où Dieu peut, par lequel Dieu peut nous parler. Jésus est le propitiatoire par lequel Dieu se révèle à nous et qu'il nous parle. Dieu parle aux hommes par son Fils. Mais il y a quelque chose qui nous saute aux yeux, c'est que même si c'était très beau et utile, et bon, et c'était une manière que le Dieu créateur vienne faire une présence, avoir une présence sur la terre parmi ses créatures, c'est déjà très étonnant. Mais en même temps, c'est malheureux. On voit que c'était très limité. La quasi-totalité du peuple n'avait pas accès à la présence de Dieu. pour un Israélite et même pour un sacrificateur, il n'y avait pas accès à aller entendre Dieu, être dans sa sainte présence, d'être dans la gloire ou en communion intime avec Dieu. Il y avait seulement le souverain sacrificateur qui pouvait y aller, seulement une fois par année. C'était là un signe très fort pour montrer que la présence de Dieu n'était pas encore accessible. On voit aussi, en plus de l'ancien sanctuaire, on voit l'ancien service. Donc, comment on servait Dieu à cette époque? Dans les versets 6 et 7. Tout cela ainsi disposé, les sacrificateurs entrent en tout temps dans la première partie du tabernacle lorsqu'ils accomplissent les cérémonies du culte. Mais dans la seconde, seul le souverain sacrificateur pénètre une fois par an, non sans y présenter du sang pour lui-même et pour les fautes du peuple. Donc, le sanctuaire lui-même était temporaire, mais on voit aussi que même le service était temporaire. C'est un service qui était très terrestre, matériel, physique ou charnel. Mais on va le voir plus en détail. Donc, les sacrificateurs, premièrement, ils pouvaient entrer en tout temps dans le lieu saint. C'est un lieu saint, c'est-à-dire un lieu sanctifié, mis à part pour eux, pour qu'ils puissent aller servir Dieu. Ils entraient à tous les jours, ils s'occupaient du chandelier, ajouter de l'huile, voir les mèches, s'assurer qu'ils brûlent constamment, rajouter du parfum sur l'autel, s'assurer que ça brûle constamment, et comme on l'a dit, pour changer les pains de proposition. Et ça, c'était fait de manière perpétuelle. C'est encore là une image de Jésus qui nous sert, comme on l'a dit, d'une manière continue. En tout temps. Et le travail des sacrificateurs consistait aussi à offrir des sacrifices pour les péchés du peuple. À chaque fois qu'un Israélite péchait, enfreignait volontairement ou involontairement un ordre de Dieu, sa relation avec Dieu était brisée. C'était fragile, la relation avec Dieu. Et il fallait qu'il aille voir un sacrificateur et qu'un animal soit sacrifié pour rétablir la communion avec Dieu. Mais c'était inévitable qu'il devait y avoir une foule de péchés pour lesquels aucun sacrifice n'était présenté. Sinon, ils auraient passé les journées entières à sacrifier les animaux, puis ça n'aurait même pas suffi. Pendant qu'ils faisaient un sacrifice, peut-être qu'ils étaient en train de pécher par une mauvaise pensée. C'était évident que même les sacrifices quotidiens ne suffisaient pas à fournir pour la quantité de péchés qui étaient faits. Donc, Dieu, c'est pour cela qu'il a pourvu le jour des expiations, un jour annuel où là, le compteur est remis à zéro. Et c'est le souverain sacrificateur qui prenait cette tâche-là. Le jour des expiations. Expiation qui veut dire que le péché est payé. Ce jour-là, le souverain sacrificateur commençait tôt sa journée. Il devait d'abord se purifier, se laver entièrement. Et il y avait des témoins pour être sûr qu'il était bien lavé. Ensuite, il se revêtait de ses habits spéciaux. Il était confectionné seulement pour lui. Et on voyait par là qu'il avait toute l'autorité pour représenter le peuple devant Dieu. Ce n'est pas n'importe qui pouvait officier ce jour-là des expiations. Ça prenait quelqu'un qui avait l'autorité et que Dieu reconnaissait qu'il avait l'autorité pour représenter le peuple. Parce que c'était tous les péchés du peuple qui étaient apportés à Dieu. Donc, son habit servait à symboliser cela. Un autre gros symbole fort dans son habit, c'est qu'il avait un pectoral avec 12 pierres qui représentaient les 12 tribus. Et même Dieu prend la peine de dire qu'il devait le porter sur sa poitrine près de son cœur pour qu'il porte ses frères dans le peuple, sur son cœur, lorsqu'il se présente devant Dieu. Il devrait ensuite offrir de nombreux sacrifices, il y a toute une liste d'animaux qui devaient être sacrifiés, pour ses propres péchés, encore pour se purifier. Puis il devait encore une fois se laver, après avoir offert ses sacrifices pour lui-même, et se laver. Il devait faire tout cela avant de passer même à l'acte principal de l'expiation. Et le respect du protocole était très sévère. Il devait respecter cela avec une grande rigueur. Et même Dieu, lorsqu'il transmet le protocole à Moïse, il dit dans Lévitique 16, « Parle à ton frère Aaron, afin qu'il n'entre pas en tout temps dans le sanctuaire, au-delà du voile, devant le propitiatoire qui est l'arche, de peur qu'il ne meure, car j'apparaîtrai dans la nuée sur le propitiatoire. » Dans Exode 28, Dieu décrit l'habit du souverain sacrificateur. Il dit, « Tu feras la robe de l'éphod entièrement violette, Tu feras sur ses pans des grenades violettes, pourpres et cramoisies, tout autour, et au milieu d'elles, des clochettes d'or, tout autour. Et Aaron s'en revêtira pour faire le service. Le son des clochettes s'entendra quand il entrera dans le lieu saint devant l'Éternel et quand il en sortira. Et de la sorte, il ne mourra pas. C'est sous-entendu aussi que tant qu'on entend les clochettes sonner, ça veut dire qu'il n'est pas encore mort. Si les clochettes arrêtent, là, on est en droit de se poser des questions. Donc ensuite, après avoir revêtu ses habits, il passait maintenant à l'action au sacrifice d'expiation en tant que tel. Et pour cela, après avoir offert tous les sacrifices pour ses propres péchés et s'être lavé à nouveau, là c'est spécial, il revêt des habits de lin, des habits humbles. Il y avait encore la tunique avec les pompons, les grenades et les clochettes. Mais c'est un habit humble, c'est surprenant, mais c'est ce que Dieu voulait pour qu'il se présente devant lui. Et il offrait d'abord un sacrifice, un taureau, encore pour ses propres péchés. C'est comme pour clouer la suite qu'il y avait eu. Un taureau, le mâle de la vache, pour ses propres péchés, il le sacrifiait. Ensuite, pendant que le sang coulait, il prenait de la braise de l'autel des parfums dans le lieu saint et il le mettait dans un brûle-parfum et il entrait dans le lieu très saint, derrière le voile. Il refermait le voile et il laissait la fumée se répandre sur l'arche de l'Alliance pour qu'elle couvre tout le propitiatoire. C'est toute une préparation. Et là, il devait se dépêcher de ressortir, j'imagine. Mais il allait près de l'autel où avait été sacrifié le taureau et il récupérait du sang dans un petit bol. Et il retournait derrière le voile pour asperger de sang l'arche de l'Alliance, le propitiatoire. Et là, Dieu considérait que son péché était pardonné, ou la colère de Dieu était apaisée. Puis la rigueur était encore là très importante. Il dit, Aaron offrira son taureau pour le péché et fera l'expiation pour lui et pour sa famille en premier. Il égorgera son taureau pour le péché, il prendra un brasier plein de charbon ardent ôté de dessus l'autel devant l'Éternel, et deux pleines poignées de parfums aromatiques en poudre, et il portera cela au-delà du voile. Il mettra le parfum sur le feu devant l'Éternel, afin que la nuée du parfum couvre le propitiatoire qui est sur le témoignage. Et il ne mourra pas. Donc, s'il fait tout cela, il ne mourra pas même s'il est dans ma présence. Et il ressortait ensuite prendre le sang du taureau pour asperger le propitiatoire. Et l'étape de l'expiation de ses péchés, de sa famille, était passée et Dieu était satisfait. Ensuite, il ressortait et là, il sacrifiait un bouc pour le péché du peuple. Donc, tout le péché du peuple était comme mis sur les épaules de ce bouc-là qui était sacrifié. Et encore une fois, Aaron, souverain sacrificateur, récupérait le sang, et cette fois-ci, il faisait tourner dans le bol, et retournait dans le lieu très saint pour asperger l'arche de l'Alliance. C'était un symbole pour montrer que la justice de Dieu était satisfaite. Une vie avait été payée, le sang avait coulé. Et c'est un symbole fort pour montrer que nos péchés qu'on a commis ont coûté la vie à cet animal. Et la justice de Dieu qui aurait fait en sorte que nous devrions mourir. Maintenant, Dieu est satisfait et sa colère est apaisée. La justice de Dieu est satisfaite. Mais dans ce protocole-là, il y avait un deuxième symbole aussi, une deuxième représentation. Parce qu'ensuite, Aaron ressortait et il y avait un deuxième bouc qui était mis à part. Celui-là, il n'était pas sacrifié. Aaron mettait ses mains dessus. C'était pour montrer que le poids de la faute du peuple reposait sur cet animal-là, sur le bouc, et il était conduit au désert et il était lâché de manière à ce qu'il ne revienne plus. C'était un bouc émissaire qui amenait les péchés du peuple. D'ailleurs, l'expression bouc émissaire vient de cela. C'est comme si le bouc recevait le blâme sur lui. Et il le portait. Et ça, c'était une image forte. C'est encore dans le contexte de l'expiation, mais c'est une image forte pour montrer que la conscience est libérée de la faute. Le châtiment qui nous est dû est éloigné et ne reviendra pas. Et toute l'œuvre, en fait, du souverain sacrificateur, vous l'avez deviné, représente l'œuvre de Jésus. Il est notre souverain sacrificateur. Et comme le souverain sacrificateur, Jésus, lorsqu'il est venu sur terre, il était extrêmement important qu'il soit pur. Il était destiné à se présenter devant Dieu, là, à être dans le lieu très saint. Il fallait qu'il soit pur. Mais contrairement au souverain sacrificateur, il n'a pas eu besoin de se purifier. Parce qu'il était pur dans sa nature même, dans son état, dans son être. Jésus est saint, il est pur. Donc, il n'y avait aucun problème à être dans la présence de Dieu. Mais l'importance était aussi grande que dans l'Ancien Testament. Il fallait qu'il soit pur. Et l'œuvre qu'il allait accomplir, même, elle était plus grande que le souverain sacrificateur de l'Ancien Testament. C'était d'autant plus important qu'il soit pur. Pas qu'il soit devenu pur, mais qu'il l'ait toujours été. Et comme souverain sacrificateur, Jésus, de la même manière que Aaron portait le poitrail, il nous a porté sur son cœur. Il dit même que c'est parce qu'il nous a aimés qu'il s'est offert en sacrifice. Vraiment, il y avait de la compassion. Et non seulement pour les gens qu'il voyait, mais il était le Dieu tout-puissant et qui connaissait l'avenir. Il nous connaissait, même à l'époque, il y a 2000 ans. Et il nous portait sur son cœur. Et comme le souverain sacrificateur, il était pleinement revêtu d'autorité. Dieu a reconnu, et on le voit le jour du baptême de Jésus, que Dieu a reconnu, et même devant ceux qui étaient assemblés, celui-ci est mon fils bien-aimé. Dieu a reconnu que Jésus était en droit, avait l'autorité pour nous représenter, pour représenter le peuple devant lui. Et Jésus, de la même manière, pour l'épreuve ultime, il s'est revêtu de manière humble. Bien, pas seulement de ses vêtements, mais je veux dire dans son attitude, dans sa situation. Il a été mené au sacrifice d'une manière très humiliante, mais il l'a fait volontairement, parce qu'il se présentait devant le Dieu très saint, et c'était voulu par Dieu que le représentant de la race humaine ait une position humble devant lui. Et il est entré, comme spirituellement, dans le Saint des Saints, dans la présence de Dieu, lui-même étant un parfum de bonne odeur pour Dieu le Père. Un parfum qui monte aux narines de Dieu comme un parfum de bonne odeur. Et il a, en cela, intercédé. Il intercède encore aujourd'hui, mais pour une première fois ce jour-là, le jour de la grande expiation de Jésus. Il a intercédé pour nous, demander le pardon pour nous, pour l'humanité. Et il a sacrifié, comme le souverain sacrificateur, il a sacrifié une vie pour que ceux qui ont péché ne meurent pas, ne subissent pas le châtiment qu'ils méritent, mais qu'une autre vie soit donnée à leur place. Mais ce qui est particulier, c'est que c'est lui-même qui s'est offert. Il n'a pas sacrifié un animal, il n'a pas sacrifié un être humain, il s'est sacrifié lui-même. Il s'est offert lui-même comme sacrifice. C'est comme s'il s'était lui-même attaché sur l'autel. Et il est mort devant les hommes pour que notre conscience soit apaisée. Donc, par sa mort, la justice de Dieu a été satisfaite, mais ça ne s'est pas fait en cachette, ça s'est fait de manière à ce que tous le savent. Et nous savons maintenant, c'est un symbole très fort, Jésus cloué sur une croix, que nous pouvons avoir notre conscience soulagée de notre péché. Cette signification-là de l'ancien culte est dit au verset 8 à 10, « Le Saint-Esprit montrait par là que l'accès du Saint des Saints n'était pas encore ouvert tant que le premier tabernacle subsistait. C'est une figure pour le temps présent. Elle signifie que les dons et sacrifices présentés ne peuvent mener à la perfection sous le rapport de la conscience. Celui qui rend ce culte ne sont là que les ordonnances charnelles relatives seulement à des aliments, des boissons et diverses ablutions et imposées jusqu'à un temps de réforme. La manière que ça se célébrait le culte dans l'Ancien Testament, c'était voulu par le Saint-Esprit pour nous montrer au moins trois choses qui sont listées ici. Premièrement, que le lieu très saint, la présence de Dieu, elle n'était pas encore accessible, elle était fermée. Donc, ça donnait un message clair, attendez, quelque chose va venir. La nécessité d'avoir un Messie qui va venir pour ouvrir la porte vers la présence de Dieu, elle était sentie par tout Israélite qui prenait conscience, qui prenait le temps de réfléchir. Il savait qu'il devait y avoir une solution qui ne soit pas temporaire. La venue du Messie était attendue. L'expiation aussi, elle était imparfaite. Elle était constamment à recommencer. Même si le jour de l'expiation, on remettait le compteur à zéro, le lendemain, il aurait fallu encore procéder à un jour semblable. C'était constamment à recommencer. Et c'était, encore là, un signe pour montrer qu'un jour, il fallait qu'il y ait une expiation parfaite. Ça allait prendre le Messie qui vienne comme un souverain sacrificateur parfait pour offrir un sacrifice parfait. Et l'ancien culte, il est clairement montré, comme on l'a dit, qu'il était temporaire. Et les gens attendaient que le Messie vienne pour un temps de réforme. Et les prophètes ont prophétisé là-dessus. Et voyons la dernière partie, qui sera moins longue, ne vous inquiétez pas. Verset 11. « Christ est venu comme un souverain sacrificateur des biens à venir. Il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait qui n'est pas construit par la main de l'homme. » C'est-à-dire qu'il n'est pas de cette création. Ici, lorsqu'il parle de la Nouvelle Alliance, l'auteur présente les trois mêmes points. Le sanctuaire, le service comme sacrificateur, et qu'est-ce que ça signifie? Le nouveau sanctuaire, dont Jésus-Christ est le sacrificateur, il n'est pas terrestre, il n'est pas matériel, il est dans le monde spirituel. Là où Dieu habite réellement, qu'il ne faut pas seulement manifester sa présence, il y est. C'est ça, son domicile. C'est ce que la Bible appelle le ciel. C'est le lieu très saint où le Dieu trois fois saint se tient. Il n'est pas fait de manière à représenter symboliquement la présence de Dieu. Il est réellement le sanctuaire. Et c'est impossible pour nous de conceptualiser ce qu'il est parce que l'image du tabernacle et du temple n'est qu'une ombre de cette réalité-là. De toute façon, ce n'est pas matériel. Et autant que le tabernacle était majestueux et le temple encore plus majestueux, on peut s'imaginer que si nous nous trouvions dans la présence du sanctuaire céleste, on serait émerveillés et on pourrait contempler cela pendant l'éternité sans jamais nous lasser. Au verset 12, il parle du nouveau service. Il est entré une fois pour toutes dans le sanctuaire. Donc c'est différent de l'ancien culte, l'ancienne mode de service. Il est entré une fois pour toutes dans le sanctuaire, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang. Et ainsi, il nous a obtenu une rédemption éternelle. Donc, Jésus est entré dans un lieu très saint. Il n'a pas été disqualifié. Il a passé l'épreuve. Et Dieu même l'a accueilli. Il a été recueilli comme un roi, tel qu'il est. Et Dieu a accepté qu'il nous représente, puisqu'il avait offert le plus parfait des sacrifices, lui-même. Et son sacrifice avait une valeur infinie, suffisante pour payer tous nos péchés passés, présents et futurs de tous les hommes. Et le pardon qu'il nous a obtenu est définitif, éternel. Il dit qu'il nous a obtenu une rédemption éternelle. Rédemption, c'est un rachat. C'est comme s'il a payé. Il a sorti, c'est plus qu'une carte de crédit, mais il a payé notre compte au complet. Et il nous a, par le fait même, racheté. Nos péchés sont expiés, effacés. Qu'est-ce que ça signifie tout cela, versets 13 et 14? Il dit, « Car si le sang des boucs et des taureaux et la cendre d'une génisse qu'on répand sur ceux qui sont souillés les sanctifie de manière à purifier la chair, ça c'était dans l'ancienne alliance, combien plus le sang de Christ, qui par l'Esprit éternel s'est offert lui-même sans tache à Dieu, purifiera-t-il notre conscience des œuvres mortes pour que nous servions le Dieu vivant? » Donc, ce n'est pas seulement notre chair qui est rendue symboliquement pure, c'est tout notre être. Parce que si c'était seulement notre chair, cela nous laisserait avec notre conscience qui nous condamne. Parce que nous savons que peu importe ce que nous faisons, peu importe le protocole, le rituel que nous suivons, ça n'efface pas les péchés que nous avons commis. Ils sont là. On ne peut pas effacer le passé. La faute reste indiquée dans notre dossier criminel devant Dieu. La colère de Dieu ne serait pas apaisée si ce n'était qu'une purification charnelle, si ce n'était qu'une religion qu'on pratique ici, sur terre. La colère de Dieu ne serait pas apaisée, la présence de Dieu demeurerait inaccessible, parce que jamais il nous considérerait saints. Même si on ne péchait plus jamais, on ne serait pas saints à cause des péchés du passé. Et un jour, nous aurions à subir le châtiment pour nos péchés. Ce serait inévitable. Mais par son Saint-Esprit qui vient en nous, l'Esprit éternel, il apaise notre conscience. Il nous convainc que son sacrifice efface même nos péchés passés, que nous devenons saints réellement pas seulement parce qu'un jour il va nous rendre parfaits, mais parce qu'il nous a sanctifiés. Dieu, lorsqu'il nous voit maintenant, c'est comme si nous n'avions pas péché. Et le Saint des Saints est ouvert maintenant pour nous. Selon Éphésiens 2:6, Dieu nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Christ Jésus. Donc, on peut goûter à la présence de Dieu. Et on l'a chanté ce matin, et même si ça peut, pour certains, paraître comme un rêve ou une utopie d'être dans la présence de Dieu, c'est réel. La Bible ne dit pas que seulement qu'un jour nous serons dans la présence de Dieu, mais que nous pouvons y être dès maintenant, alors que nous sommes encore sur terre. Nous pouvons expérimenter d'être dans la présence de Dieu, dans le lieu trois fois saint, dans le Saint des Saints. Et c'est plus qu'un sentiment. Bien sûr, ça s'accompagne de sentiments, d'un bonheur, d'une joie, d'avoir son Père éternel qui nous met la main sur l'épaule, qui prend soin de nous. Mais non seulement nous savons que nous ne sommes plus des pécheurs devant Dieu, mais en plus, le Saint-Esprit en nous nous transforme et nous rend de plus en plus semblables à ce que nous sommes dans le monde spirituel. Il nous sanctifie de manière à ce que nous péchions de moins en moins. Donc, non seulement nous le savons, notre conscience est apaisée, mais nous le constatons dans nos vies. Et nous le constatons dans la vie de nos frères. C'est le travail du Saint-Esprit en nous. C'est le travail de Jésus qui continue d'utiliser son sang comme sur le propitiatoire pour nous purifier quotidiennement et nous obtenir le pardon de Dieu. Il y a une conclusion à tout cela. Au verset 14, il nous purifie, il purifie notre conscience des œuvres mortes. Dans quel but? Pourquoi tout cela? Pour que nous servions le Dieu vivant. C'est pour la gloire de Dieu. Bien sûr, ça fait notre bonheur, ça fait notre bonheur éternel. Mais ce n'est pas d'abord pour nous, c'est d'abord pour Dieu, pour le servir. Et servir, le mot qu'il utilise ici, c'est vraiment le service dans le sens d'un sacrificateur qui sert au culte. C'est le sacerdoce. Et celui qu'on sert, c'est le Dieu vivant. Habituellement, dans la Bible, lorsque l'expression « Dieu vivant » est utilisée, c'est pour le mettre en opposition à toutes les idoles, les faux dieux qui ne sont pas vivants. Ou lorsque nous nous servons nous-mêmes, en réalité, nous ne sommes pas un vrai Dieu. Il n'y a qu'un seul vrai Dieu. Et il n'y a qu'une seule manière de pouvoir le servir, d'entrer comme sacrificateur pour Dieu, et que ça lui plaise, c'est d'avoir été purifié. Et notre conscience des œuvres mortes a été purifiée. Pour le servir, il faut faire partie de son peuple. Il faut avoir été sauvé par Jésus. Il faut que ses péchés aient été effacés. Il faut prendre part au grand jour des expiations. Il faut accepter que lorsque Jésus met symboliquement la main sur le bouc, que nos péchés soient inclus dans le sacrifice que Jésus a fait. Il n'y a rien que vous puissiez faire pour vous faire pardonner par Dieu, parce que tout a déjà été fait. Il n'y a rien qu'on peut faire pour obtenir le pardon de Dieu. Tout a déjà été fait par Jésus. Jésus est le souverain sacrificateur et il a tout fait le travail d'expiation pour nous racheter, pour nous sauver. Sur la croix, il a dit « Tout est accompli ». Mais cette expiation qu'il a fait n'est pas effective pour tous les hommes sur la terre. Elle pourrait l'être parce que la valeur de son sacrifice est infinie, mais elle est effective seulement dans ceux qui croient dans ce sacrifice-là. C'est par la foi que Jésus devient notre représentant, notre sacrificateur, notre sacrifice, et qu'il nous rachète. Celui qui ne croit pas à cela ne bénéficie pas de l'œuvre de sacrifice que Jésus a faite. Si vous êtes sauvés, vous êtes dans le peuple de Dieu, et votre devoir, qui est en même temps un grand privilège, c'est maintenant de servir le Dieu vivant. Tout sacrificateur avait le devoir de servir de manière quotidienne. Mais Jésus a fait de nous les sacrificateurs. Il nous a ordonné. Il nous a fait entrer dans l'ordre. Tite 2,14 dit « Il s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui et zélé pour les œuvres bonnes. » Il y a un but à tout cela, c'est pour que nous puissions servir Dieu. Et dans les versets précédents, et encore là, Ronald, je pense qu'il avait choisi le verset pour cela. Dans les versets précédents, il est écrit que Dieu nous a sauvés par sa grâce et que par cette même grâce-là, il nous enseigne à renoncer à l'impiété, donc c'est-à-dire à renoncer à un mode de vie comme si Dieu n'existait pas. renoncer à cela, renoncer au désir du monde, aux passions qui nous entraînent, et à vivre dans le siècle où on se trouve, dans le siècle présent, mais d'une manière sensée, c'est-à-dire en cherchant la sagesse de Dieu, de manière juste, sans faire rien de malhonnête et rien qui enfreint la volonté de Dieu, et d'une manière pieuse, de manière zélée, dévouée pour le Seigneur. Donc, on ne doit pas servir dans le but d'être sauvé, mais parce que nous sommes sauvés. On ne doit pas servir Dieu dans le but qu'il nous pardonne, mais parce que nous sommes pardonnés. Ce n'est pas dans le but d'acquérir un jour le titre de sacrificateur, c'est parce qu'il a fait de nous un sacrificateur, des sacrificateurs. Et malheureusement, beaucoup de chrétiens n'expérimentent pas la joie, le bonheur d'être dans le lieu saint. Ils restent comme dans le parvis extérieur. Ils ont été là le jour de l'expiation, leurs péchés ont été pardonnés. Mais c'est tout, c'est comme un sacrificateur qui serait en mode de veille et qui ne participe pas. Il n'expérimente pas d'être dans le lieu saint pour servir Dieu. Donc, il n'expérimente pas d'être dans le lieu très saint, de sentir la présence de Dieu réelle. Et ils font des services dans l'Église, sachant au fond d'eux-mêmes qu'ils sont hypocrites. Ils manquent de sincérité. Mais la présence de Dieu est accessible. Et même si vous n'avez jamais expérimenté cela, sachez que c'est possible. Approchez-vous de Dieu d'un cœur sincère et il va se révéler à vous. Il va se manifester dans votre vie. Vous allez goûter à cette joie-là qui est déjà disponible par la grâce de Dieu sur cette terre. On peut expérimenter une relation intime avec Dieu. Il peut nous parler par sa parole lorsqu'on lit la Bible. Nous pouvons lui parler par la prière. Jésus peut nous éclairer, continuer d'intercéder pour nous lorsque nous prions en son nom. Il peut nous nourrir, nous faire grandir. Donc, est-ce que c'est possible réellement de servir Dieu d'un cœur sincère ou si de toute manière nous nous servons nous-mêmes? Non, la Bible nous dit que c'est possible de servir Dieu. En méditant constamment sur l'œuvre de Jésus. Il n'y a pas 56 moyens. Le seul moyen, à le fond, de demeurer un serviteur fidèle de Dieu et sincère, sans hypocrisie, c'est de se souvenir de ce que Jésus a fait et qu'il fait présentement, qu'il est notre sacrificateur au ciel. C'est de garder les yeux sur Christ. C'est un truc très simple, dans le fond. Mais faites-le à tous les jours, méditez sur le fait que Jésus est mort pour vous, qu'il vous représente au ciel, qu'il vous acquiert le pardon. Et votre intimité avec Dieu va grandir. Vous allez apprendre à goûter à la présence de Dieu dans le lieu très saint. Une communion intime avec Dieu. Amen.